Chapitre 19. Les trois corps. Einstein, le pendule et la grande déchirure. C'était la cinquième fois que Wang Miao se connectait au jeu des trois corps. Le monde baigné par l'aube auquel il s'était habitué n'avait plus du tout le même aspect. La pyramide qui était apparue lors de ses quatre dernières parties avait été détruite lors de la syzygie des trois soleils. À sa place se dressait maintenant une grande tour moderne gris foncé qui rappela à Wang Miao l'architecture du siège des Nations Unies. Au loin, d'autres tours parsemaient la plaine, probablement des silos de déshydratation. Les silos étaient revêtus d'une surface miroitante qui, sous la lueur du matin, leur donnait l'apparence de gigantesques plantes de cristal qui auraient jailli du sol. Wang Miao entendit le son d'un violon qui jouait un morceau de Mozart. Le violoniste ne donnait pas l'air d'être un musicien professionnel, mais il dégageait un charme singulier, donnant l'impression qu'il jouait pour lui-même et que cela suffisait à son bonheur. La musique provenait du perron situé devant la grande porte de la tour. Le joueur était un vieux clochard dont l'épaisse chevelure argentée volait au vent. À ses pieds, un haut de forme défraîchi contenait quelques pièces. Wang Miao remarqua soudain que le soleil s'était levé, mais dans la direction opposée de l'horizon d'où pointait la lumière de l'aube. Au même endroit, quelques minutes plus tôt, le ciel était complètement noir. Le soleil était immense. La moitié seulement de sa circonférence occupait déjà un tiers de l'horizon visible. Le cœur de Wang Miao se mit à battre plus vite. Un si grand soleil était forcément le présage d'une nouvelle catastrophe. Mais lorsqu'il tourna la tête, il vit que le vieux clochard continuait à jouer sereinement de son instrument comme si rien ne s'était passé. Ses cheveux d'argent parurent s'embraser sous l'effet des rayons du soleil. Le soleil était argenté, de la même couleur que les cheveux du violoniste. Il irradia le sol de raies cristallins, mais Wang Miao n'éprouva étrangement aucune sensation de chaleur. Il observa l'astre qui était maintenant entièrement passé au-dessus de la ligne de l'horizon. À la surface de ce gigantesque disque d'argent, il put apercevoir avec clarté des motifs marbrés, des chaînes de montagnes à l'état solide. Wang Miao remarqua que le disque n'émettait aucune lumière et ne faisait que refléter les rayons provenant du vrai soleil qui se levait de l'autre côté. Ce n'était pas un soleil, mais une lune géante. Elle se déplaçait à une vitesse ahurissante, si rapidement qu'on pouvait détecter son trajet dans le ciel à l'œil nu. Durant son parcours, elle diminua peu à peu de volume jusqu'à prendre la forme d'une demi-lune, puis d'un croissant. L'air froid du matin paraissait bercé par le son agréable du violon du clochard. C'était comme si toute la splendeur de l'univers s'incarnait dans sa musique. Wang Miao éprouva une merveilleuse sensation de bien-être. Le croissant de lune fut bientôt éclipsé par l'intensité grandissante du lever du jour. Lorsque ne restèrent plus que deux pointes de rayons argentés au-dessus de la ligne d'horizon, Wang Miao fut soudain habité par l'image de deux cornes appartenant à un taureau géant en train de charger le soleil.
« Honorable Copernic, faites donc halte quelques instants. Profitez d'un morceau de Mozart et peut-être m'offrirez-vous de quoi me payer un déjeuner. » fit le clochard, une fois que la lune eut totalement disparu derrière l'horizon.
« Si je ne m'abuse, vous êtes... » commença Wang Miao en contemplant ce visage dont les rides harmonieuses n'affectaient en rien la grâce.
« Vous ne vous trompez pas. Je suis Einstein, pauvre enfant de Dieu abandonné par lui.
Quelle est cette énorme lune? Je ne l'ai jamais vue lors de mes précédentes venues. »
« Elle est refroidie maintenant. »«
Quoi donc ?»«
La lune, bien sûr. Lorsque j'étais enfant, elle était encore chaude. Quand elle s'élevait au milieu du ciel, on pouvait voir son cœur rougeoyant sur ses plaines centrales, mais elle est refroidie à présent. Vous n'avez jamais entendu parler de la grande déchirure ?»«
Non, qu'est-ce que c'est ?» Einstein poussa un soupir et secoua la tête.
« N'en parlons pas. » Le passé est trop douloureux. Mon passé, le passé de la civilisation, le passé de l'univers, tout est trop douloureux.
Comment en êtes-vous arrivé là? Wang Miao fouilla dans sa poche et y découvrit quelques pièces de monnaie. Il se baissa et jeta les pièces dans le chapeau.
« Merci, Copernic. Prions pour que Dieu ne vous abandonne pas non plus, mais j'en doute fort. J'avais le sentiment que le modèle d'ordinateur que vous, Newton et les autres aviez créé en Orient était très proche de l'exactitude. Mais voilà, une seule petite erreur et ce fut un infranchissable gouffre pour Newton et sa clique. J'ai toujours considéré que même si je n'avais pas été là, quelqu'un d'autre aurait fini par découvrir la relativité restreinte. L'erreur de Newton, c'est d'avoir négligé la courbure de l'espace-temps provoquée par les orbites planétaires, telle que la décrit la théorie de la relativité générale. C'est un oubli certes minime, mais qui s'est avéré fatal pour les résultats de ses calculs. Il aurait fallu ajouter la courbure de l'espace-temps dans l'équation classique pour obtenir un modèle mathématique correct. La somme des calculs à effectuer était en réalité beaucoup plus importante que ce que vous aviez tenté de faire en Orient. Mais à l'aide des ordinateurs modernes, cela ne pose pas un grand problème. Les résultats des calculs ont-ils été confirmés par des observations astronomiques? Si tel avait été le cas, pensez-vous que je serais ici? Mais d'un point de vue esthétique, ce n'est pas moi qui suis en tort, c'est l'univers. Dieu m'a abandonné. Puis les autres hommes m'ont abandonné à leur tour. Je suis devenu un paria. L'université de Princeton m'a démis de mes fonctions de professeur. L'UNESCO ne m'a plus proposé de poste de consultant scientifique, alors qu'il m'implorait à genoux quelques mois plus tôt. J'ai même pensé à finalement accepter de devenir président d'Israël, mais ils m'ont dit avoir changé d'idée, que je n'étais qu'un imposteur.
Einstein se remit à jouer du violon, reprenant le morceau précisément là où il s'était arrêté quelques minutes plus tôt. Wang Miao l'écouta encore un instant et se dirigea vers la porte du siège des Nations Unies.
« Il n'y a plus personne à l'intérieur, » lui dit Einstein en continuant à jouer. « Tous les participants à la session de l'Assemblée générale sont derrière la tour. Ils assistent à la cérémonie d'inauguration du mémorial du pendule. »
Wang Miao fit le tour et arriva derrière le bâtiment. Il se retrouva face à un tableau incroyable. Devant lui se dressait un pendule gigantesque qui semblait relier la terre au ciel. Il avait aperçu plus tôt une partie du pendule derrière la tour, mais il ignorait alors ce que c'était. C'était le même genre de pendule que ceux créés par Fuxi pour bercer le dieu du soleil lors de sa première connexion au monde des trois corps, à l'époque des royaumes combattants. Mais le pendule qu'il avait à présent devant les yeux était de facture moderne. Les deux piliers soutenant l'instrument étaient en métal et chacun était aussi haut que la tour Eiffel. Le poids du pendule était en métal fuselé et sa surface miroitante électroplaquée était lisse. La tige, faite dans un matériel ultra résistant, était si fine qu'on ne la voyait presque pas, ce qui donnait l'impression que le poids du pendule flottait dans l'air entre deux immenses tours. Un attroupement d'individus en costume s'était formé sous le pendule, sans doute les dirigeants des différents pays participant à la session de l'Assemblée générale. Ils étaient divisés en petits groupes et bavardaient tranquillement, comme s'ils attendaient quelque chose.
« Ah, Copernic ! L'homme qui a traversé quatre époques !» cria quelqu'un à haute voix,
et tous lui firent un signe de bienvenue.
Vous êtes donc celui qui a vu de ses propres yeux les pendules de l'époque des royaumes combattants,
lui dit un homme affable à la peau noire en lui serrant la main. On le lui présenta comme le secrétaire général des Nations Unies.
Oui, en effet, mais pourquoi en avoir reconstruit un aujourd'hui? Demanda Wang Miao.
C'est un monument commémoratif pour Trisolaris, ainsi qu'une stèle funéraire, expliqua le secrétaire général en montrant le pendule. D'ici, il a l'air aussi grand qu'un sous-marin.
Une stèle funéraire? Pour qui?
Pour un effort. Un effort poursuivi durant près de 200 civilisations. Celui de résoudre le problème à trois corps, celui de comprendre le mouvement des trois soleils.
Cet effort a donc pris fin?
Aujourd'hui, oui. Maintenant, il n'a plus de raison d'être.
Wang Miao hésita un instant, puis sortit une pile de documents.
le modèle mathématique des trois corps qu'avait réalisé Wei Cheng.
Je suis revenu pour cela. Je suis venu vous apporter un modèle mathématique capable de résoudre le problème à trois corps. J'ai toutes les raisons de croire qu'il peut marcher.
Mais à peine Wang Miao eut-il prononcé ces mots qu'il s'aperçut que tous ceux qui l'entouraient s'étaient désintéressés de lui et étaient repartis dans les petits cercles de discussion qu'ils avaient quittés quelques instants plus tôt pour le saluer. Wang Miao remarqua même que certains s'étaient éloignés en gloussant et en secouant la tête. Le secrétaire prit ses documents et, sans même y jeter un œil, il les transmit à un grand homme maigre à lunettes qui se tenait à côté de lui.
« Par respect pour votre immense réputation, je demanderai à mon consultant scientifique d'examiner ce document. Ici, tout le monde a un grand respect pour vous. Si n'importe qui d'autre avait dit ce que vous venez de dire, on se serait aussitôt moqué de lui. »
Le consultant scientifique feuilleta le document.
« Un algorithme évolutionnaire. Copernic, vous êtes un génie. Tous ceux qui sont en mesure de réaliser ce type d'algorithme sont des génies. Cela nécessite non seulement un don indéniable pour les mathématiques, mais aussi beaucoup d'imagination. À vous entendre, il semblerait que quelqu'un ait déjà créé ici un tel modèle mathématique ?»«
Oui, il en existe en réalité plus d'une dizaine, dont plus de la moitié sont encore plus avancés que le vôtre. » Ils ont été créés et mis en application par des ordinateurs. Durant ces deux derniers siècles, ces immenses calculs ont constitué l'activité principale de notre monde. Nous attendions les résultats comme si c'était le jour du jugement dernier.
Et ?
Nous avons définitivement prouvé que le problème à trois corps ne pouvait être résolu.
Wang Miao leva les yeux vers le gigantesque pendule. Dans la lueur de l'aube, il brillait comme du cristal. Sa surface miroitante déformée reflétait les alentours comme s'il était l'œil du monde. Sur cette même plaine, bien des civilisations plus tôt, le roi Wen et lui étaient passés devant une rangée de pendules géants avant d'atteindre le palais du roi Chu. Et ainsi, l'histoire avait tracé une grande boucle et était retournée à son point de départ.
Comme nous l'avions prédit il y a longtemps, le système des trois corps est un système chaotique. D'infimes perturbations peuvent s'amplifier sans fin. Son modèle de mouvement ne peut par définition pas être prédit, expliqua le consultant scientifique.
L'espace d'un instant, toutes les connaissances scientifiques de Wang Miao lui parurent floues. À leur place émergeait une confusion qu'ils n'avaient jamais éprouvée.
Mais alors, si même un système aussi simple que celui des trois corps n'est qu'un imprévisible chaos, comment garder foi dans la découverte un jour future des lois qui régissent la complexité de notre univers?
Dieu est sans pitié. Il joue au dé. Il nous a abandonnés, dit soudain Einstein, qu'il n'avait pas vu arriver.
Le secrétaire général opina lentement de la tête.
« Oui, Dieu est un joueur de dés, et notre seul espoir est de lancer le dé à notre tour. »
C'est alors que la lune géante réapparut du côté obscur de l'horizon. Son image argentée se refléta sur la surface du poids du pendule. Sa lumière se mit à vaciller étrangement, comme si un mystérieux contact télépathique s'était établi entre elle et le pendule.
En parlant de civilisation, la vôtre semble déjà avoir atteint un niveau très avancé, dit Wang Miao.
Oui, nous maîtrisons désormais l'énergie nucléaire et nous avons atteint l'âge de l'information, répondit le secrétaire général, sans pour autant faire montre de fierté.
Il existe peut-être un espoir. La civilisation peut continuer à progresser jusqu'à atteindre un niveau où, même sans connaître la mécanique des soleils, elle pourra survivre aux airs chaotiques et résister aux ravages causés par les mouvements irréguliers des soleils.
C'est ce que croyaient les gens autrefois. C'était l'une des raisons qui ont jadis poussé les civilisations de Trisolaris à renaître encore et toujours.
Mais nous avons pris conscience de la naïveté de cette croyance, dit le secrétaire général en pointant du doigt la lune géante. Vous voyez peut-être cette lune gigantesque pour la première fois. Elle fait environ un quart de la taille de notre planète. Ce n'est déjà plus une lune, mais plutôt une autre planète dans un système binaire,
le produit de la grande déchirure.
La grande déchirure?
La catastrophe qui a anéanti la dernière civilisation. Par comparaison avec les cataclysmes ayant détruit les civilisations plus anciennes, nous avons été avertis bien plus tôt de l'imminence de cette catastrophe. Les chroniques datant de cette époque indiquent que les astronomes de la civilisation numéro 191 avaient observé depuis longtemps une étoile volante figée.
En entendant cette dernière phrase, Wang Miao sentit son cœur se nouer. Une étoile volante figée représentait le plus terrible des présages.
Quand une étoile volante, ou plutôt un soleil éloigné, paraissait, vu de la surface, s'être figée sur la toile de l'univers, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Le soleil et la planète étaient alignés. Cette situation pouvait donner lieu à trois interprétations possibles. Le soleil et la planète se déplaçaient à la même vitesse et dans la même direction. Le soleil s'éloignait de la planète. Et enfin, le soleil se rapprochait de la planète. Avant la civilisation numéro 191, cette dernière interprétation n'était qu'une catastrophe théorique, car elle n'avait jamais eu lieu. Cependant, la peur et l'appréhension éprouvées face à ce phénomène tant redouté étaient omniprésentes dans la population. La simple évocation d'étoile volante figée portait malheur à Trisolaris. Une seule étoile volante figée suffisait à faire frissonner chacun de peur. Mais ce jour-là, ce furent trois étoiles volantes qui se figèrent simultanément. Le peuple de la civilisation numéro 191 était debout sur la terre, le regard impuissant tourné vers les trois étoiles volantes suspendues dans la voûte céleste, observant les trois soleils s'avancer dans la direction de leur planète. Au bout de quelques jours, l'un des soleils s'est trouvé à une distance si proche qu'on a pu voir sa couche externe gazeuse. Dans la tranquillité de la nuit, l'étoile volante s'est métamorphosée en soleil ardent, et à des intervalles d'un peu plus de 30 heures, les deux autres soleils lui ont succédé. Ce n'était pas un ciel normal à trois soleils, car lorsque la dernière étoile volante a eu pris l'apparence d'un soleil, le premier avait déjà dépassé la planète à une distance extrêmement proche. Puis ça a été au tour des deux autres soleils de frôler la planète d'encore plus près. Les trois soleils ont franchi la limite de roche, si bien que la force des marées provoquée par les trois astres a dépassé l'auto-attraction de la planète. En rasant la planète, le premier soleil a déplacé ses couches géologiques les plus profondes. Le deuxième a provoqué une fissure qui s'est prolongée jusqu'à son noyau, et le troisième a déchiré la planète en deux.
Le secrétaire général montra du doigt la lune géante dans le ciel.
Vous voyez ici la moitié la plus petite. Là-bas se trouvent les ruines de la civilisation numéro 191. Mais plus aucune créature vivante ne peuple ce monde. C'est le plus terrible désastre de toute l'histoire de Trisolaris. Après la fissure de la planète, les deux morceaux, de forme irrégulière, ont retrouvé leur apparence sphérique sous l'influence de leur propre gravité. La matière en fusion du noyau de la planète a jailli à la surface et les océans se sont mis à bouillir. Les continents ont dérivé comme des icebergs sur ce magma. Après leur collision, le sol est devenu aussi liquide que les océans. Des chaînes de montagnes immenses de plusieurs dizaines de milliers de mètres se sont formées en moins d'une heure et ont disparu aussitôt. Durant un certain temps, les deux fragments fissurés de la planète ont pu être reliés entre eux par une sorte de pont dans l'espace, formé par une rivière de lave en fusion. La lave a ensuite refroidi dans l'espace et des anneaux se sont formés autour de la planète, mais les anneaux étaient instables à cause de la perturbation gravitationnelle des deux planètes. Les rochers de lave sont donc retombés confusément sur le sol des planètes. Cette pluie de météorites a duré pendant des siècles. Pouvez-vous imaginer cet enfer? Ce fut la catastrophe écologique la plus terrible de l'histoire. La vie a totalement disparu de notre planète double, et notre planète mère, celle sur laquelle nous nous trouvons, a bien failli connaître le même sort. Mais les graines de la vie ont repoussé ici, et lorsque la planète est parvenue à trouver un état géologique stable, l'évolution a repris à un rythme effréné sur des continents et des océans nouveaux, jusqu'à ce que la civilisation renaisse pour la 192e fois. Ce processus a pris 92 millions d'années. L'univers dans lequel se trouve le monde de Trisolaris est encore plus impitoyable que nous l'imaginions. Quand verrons-nous la prochaine étoile volante figée? Il y a de grands risques que notre planète ne fasse pas que frôler les soleils, mais se retrouve happée par leurs océans de flammes. Plus le temps passe, plus ce danger se rapproche. Ce n'était autrefois qu'une supposition effrayante, mais des observations astronomiques récentes nous ont fait perdre tout espoir dans la destinée de notre monde. En étudiant des résidus datant de la formation de notre système solaire, les scientifiques avaient pour objectif de comprendre l'histoire de la formation des soleils et des planètes. Au lieu de cela, ils ont fait une terrible découverte. Il y a bien longtemps, notre système trisolarien comptait 12 planètes. Il n'en reste maintenant qu'une, la nôtre. Une seule explication est possible. À l'échelle du temps démesuré de l'astronomie, les 11 autres planètes ont été consumées par les 3 soleils. Notre monde n'est ni plus ni moins que le dernier survivant d'une grande chasse à l'échelle de l'univers. C'est uniquement par chance que la civilisation a pu renaître à 192 reprises. Après des recherches encore plus poussées, nous avons découvert le phénomène de respiration des 3 étoiles.
La respiration des étoiles?
Ce n'est qu'une image. Vous avez découvert la couche gazeuse externe entourant les soleils, mais vous ignorez que cette couche gazeuse connaît de longs cycles de dilatation et de contraction, comme si elle respirait. Lorsque la couche gazeuse se dilate, elle peut devenir 10 fois plus épaisse, ce qui augmente bien sûr considérablement le diamètre de l'étoile. Elle devient alors comme une main géante capable d'empoigner les planètes à son aise. Quand une planète et un soleil se trouvent à une certaine distance, la planète pénètre dans la couche gazeuse et le frottement intense entre les deux corps lui fait perdre de la vitesse. Pour finir, comme la longue queue de feu d'une comète, elle s'abîme dans l'océan de flammes du soleil. Les résultats de ces travaux ont montré que, durant la longue histoire du système trisolarien, chaque fois que la couche gazeuse d'un soleil est entrée en période de dilatation, celui-ci a englouti une à deux planètes. Les 11 planètes ont en effet sombré dans la mer de flammes d'un soleil durant la période où la dilatation de sa couche gazeuse était la plus grande. Aujourd'hui, les couches gazeuses des soleils sont dans un cycle de contraction. Autrement, les soleils n'auraient pas fait que frôler notre planète il y a 92 millions d'années. Mais selon les prédictions des chercheurs, la prochaine période de dilatation aura lieu dans 150 à 200 000 ans. Nous ne pouvons plus rester dans cet endroit maudit, conclut Einstein, qui s'était allongé en travers du sol, le violon entre les bras, comme un vieux mendiant. Le secrétaire général opina de la tête et reprit. Oui, nous devons partir, et vite. Notre dernière porte de sortie, c'est de faire un pari avec l'univers.
Quel genre de pari? Demanda Wang Miao.
Sortir de ce système stellaire. Voguer dans le vaste océan d'étoiles et chercher dans la galaxie un nouveau monde où émigrer. À cet instant, Wang Miao entendit un grincement sourd. Il vit le poids géant du pendule être hissé par un mince câble attaché à un treuil placé en hauteur. Quand il fut hissé jusqu'en haut, un énorme fragment de lune descendant dans la lumière de l'aube émergea derrière lui, dans le fond du ciel. Le secrétaire général annonça solennellement « Lancez le pendule !» Le treuil relâcha le câble et le poids du pendule tomba silencieusement le long d'une trajectoire lisse et arquée. Son mouvement commença tout d'abord par être lent, puis il prit de la vitesse et atteignit sa vitesse maximale en bas de l'arc. Quand il déchira l'air, on entendit le bruit lourd et sifflant du vent. Puis le pendule remonta le long de l'arc jusqu'à son point culminant. Il se figea quelques instants, puis redémarra son mouvement de balancier. Wang Miao pouvait sentir l'immense force générée par le mouvement du pendule. Le sol semblait comme secoué par son balancement. Contrairement au pendule du monde réel, le temps de balancement du pendule n'était pas régulier. Il ne cessait de changer. Une particularité due à l'attraction gravitationnelle variable de la lune géante.
Lorsque la lune géante se trouvait de ce côté de la planète, sa gravité et celle de la planète s'annulaient mutuellement et le pendule perdait du poids. À l'inverse, lorsque la lune passait de l'autre côté, sa gravité s'ajoutait à celle de la planète et le poids du pendule augmentait jusqu'à revenir quasiment à celui qui était le sien avant la grande déchirure. En levant les yeux pour observer le mouvement impressionnant de ce monument en l'honneur de Trisolaris, Wang Miao se demanda si le pendule commémorait l'espoir d'un ordre ou bien la soumission au chaos. Il s'imagina le pendule comme un gigantesque point de fer éternellement brandi contre l'univers, comme si Trisolaris clamait en silence qu'elle resterait à jamais insoumise. Tandis que les yeux de Wang Miao se brouillaient de larmes, il vit un texte s'afficher devant le pendule. 451 ans plus tard, la civilisation numéro 192 a été détruite par les flammes d'un ciel à deux soleils. La civilisation avait atteint l'âge de l'atome et l'âge de l'information. La civilisation numéro 192 a posé un jalon important dans l'histoire de la civilisation trisolarienne. Elle a enfin prouvé que le problème à trois corps ne possédait aucune solution. C'est elle qui a choisi d'abandonner les efforts vains des 191 civilisations l'ayant précédée. Elle a déterminé une nouvelle trajectoire pour les civilisations futures. Désormais, le nouveau but ultime du jeu des trois corps est le suivant. Partir dans l'univers, chercher une nouvelle demeure. Nous vous invitons à vous reconnecter dans le futur. Après avoir quitté le jeu des trois corps, Wang Miao se sentit lessivé. Mais malgré sa fatigue, il ne se reposa cette fois-ci qu'une petite demi-heure avant de se reconnecter. Sur le fond noir s'afficha une information inattendue. Urgent. Les serveurs des trois corps vont bientôt fermer. Connectez-vous librement pendant le temps restant. Le jeu des trois corps va maintenant passer directement à la scène finale.